Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Tout pour investir, le coach.
Nous allons vous coacher pour investir dans un secteur très particulier, celui de la deep tech. Bonjour Alexandre Leng.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le cofondateur de Tudigo. Vous allez nous donner vos bons conseils pour ceux et celles qui seraient tentés d'investir peut-être dans l'une des deep tech françaises, car elles sont nombreuses. En quelques mots, Alexandre, la France est plutôt bien placée sur ce secteur.
Ouais, 1300 startups deep tech créées en 5 ans, 16 milliards de financement en 2023, une croissance des investissements de quasiment 40%, 38% par rapport à 2022. La France aujourd'hui se positionne comme un acteur majeur de la deep tech, très près derrière le Royaume-Uni. Qui, au niveau global start-up, est pour le coup, en revanche, deux fois devant nous. Oui. Donc, voilà. Donc ça, je pense que c'est un point à relever. Si on prend l'Europe en général, la part de marché en termes d'investissement de l'Europe sur la deep tech est passée à 22%, donc devant la Chine qui est à 13%, là où la Chine, effectivement, avant 2019, était devant nous. Ça représente deux fois le niveau de 2019, même si on reste encore très loin des États-Unis.
Un tout petit peu de définition. Qu'est-ce que c'est qu'une deep tech ?
Alors, avant de la deep tech, déjà, on est dans de l'innovation de rupture. Une innovation de rupture, c'est une innovation qui modifie radicalement les pratiques, qui crée des nouveaux marchés, qui redéfinit totalement les standards d'un secteur, qui ont le potentiel même de déstabiliser ou rendre obsolètes des technologies existantes. J'étais à un salon de l'industrie mardi, et j'ai découvert, par exemple, une entreprise qui a développé des pédales de vélo qui permettent de pédaler sans la chaîne. Sur la chaîne électrique. Bon, ouais, vous imaginez quand même le
c'est
potentiel.
Plus un vélo,
c'est un vélo électrique, mais il n'y a plus de chaîne. Vous supprimez complètement la chaîne. Donc, qu'est-ce qui va advenir de l'ensemble de l'industrie? Vu le potentiel de disruption, les gains là-dessus en termes de, à la fois économique, de maintenance, on peut bien imaginer que ça va complètement changer une industrie qui fonctionne avec une chaîne sur le vélo depuis des dizaines, centaines d'années même.
L'innovation de rupture. Alors, on va vous outiller, chers auditeurs, auditrices, vous donner les outils, en tout cas une sorte de grille de lecture avant d'investir dans les deep tech. Qu'est-ce qu'on vérifie d'abord ?
Alors, qu'est-ce qu'on vérifie ? Donc, on va vérifier déjà l'innovation en question. Okay. La deep tech, c'est une entreprise déjà qui a une innovation portée par la recherche scientifique, issue de la recherche scientifique en général, qui a été développée dans des laboratoires, dans des pôles universitaires,
et qui a été concours Lépine.
Ouais, non, mais voilà, pas de concours Lépine. On est vraiment dans de la recherche. C'est de la recherche en laboratoire. C'est des innovations. C'est de l'innovation technologique qui n'avait pas encore une application potentiellement commerciale et qui a été transférée à une entreprise qui va lui trouver un débouché et une proposition de valeur, une réponse à un besoin, à un problème. Donc, c'est très intense en recherche et développement. Ça rejoint avec le dispositif Jeunes Entreprises Innovantes que nous a mis en place Paul Midi, avec les Jeunes Entreprises Innovantes de rupture. Et c'est un temps de développement qui est très long. Okay, très long.
Long comment ?
Long, un fonds classique, vous êtes sur un fonds d'investissement et en général sur du 5-7 ans. Un fonds qui va investir en deep tech va plutôt être sur du 7 à 15 ans. Lorsque vous investissez en deep tech, entre le moment où vous allez passer du laboratoire à l'entreprise et puis entre le développement de l'innovation et sa mise sur le marché, il peut se passer comme en med tech, 5, 7, voire 10 ans, selon les cas. Mais c'est parce qu'en fait, on est vraiment sur des technologies révolutionnaires. Je vous donne un exemple, une entreprise qu'on a identifiée chez Tudigo, Remedy Labs, qui a développé un bracelet connecté qui permet de soulager les douleurs chroniques. Ça semble anodin comme ça, mais c'est la première solution non médicamenteuse pour le traitement des douleurs chroniques qui affectent 20% de la population.
Par exemple, de l'arthrose, des maux de tête.
Exactement. Et qui utilise l'intelligence artificielle, des capteurs, pour venir stimuler la production d'endorphines. Et donc soulager la douleur. Mais ça, sans utiliser de médicaments. Oui, c'est quand même disruptif. Les deep tech, hein, on les trouve également, bien sûr, sur tous les enjeux climatiques. Les batteries, les bornes de recharge, les nouvelles mobilités, des procédés électrochimiques. C'est vraiment, on est quand même sur on n'est plus dans l'innovation incrémentale qui vient ajouter quelque chose, ouais. Faire gagner un petit peu de performance.
On n'est pas sur la feature, comme on dit.
Voilà, on n'est pas sur une fonctionnalité additionnelle, un petit gain. Non, on vient changer radicalement la façon dont on opérait.
Mm-mm. Quoi d'autre dans cette grille de lecture ?
Alors, dans cette grille de lecture, vous avez, notamment pour vous aider, ce qu'on appelle le TRL.
Qu'est-ce que c'est que le TRL ?
Technology Readiness Level, autrement dit, niveau de maturité technologique. Alors, c'est le TRL, hein, ça va de 1 à 9. Mmh. TRL 4, ça veut dire que la technologie a été validée en laboratoire. Okay. Le TRL 7, vous avez déjà eu une expérimentation en conditions réelles. Donc, expérimentation en conditions réelles, une deep tech, notamment industrielle, va en général aller négocier avec des grands groupes, avec des usines, la possibilité de venir tester hors du laboratoire son prototype.
À quel TRL, en tant qu'investisseur particulier, on peut envisager de rentrer dans une entreprise ?
Je veux dire, pas avant le 5-6. Parce que c'est déjà TRL 4, vraiment sorti de laboratoire. Donc, il y a une innovation, sauf que aujourd'hui, on ne sait pas encore si on est capable de lui trouver une application. Mmh. À partir du 7, ça commence à être bien. Parce que si vous avez réussi à convaincre un grand groupe, un directeur d'usine, de venir vous tester, sachant que les risques industriels peuvent être conséquents, c'est que cette innovation-là a fait ses preuves. Voilà. Après, vous pouvez consolider ça par tout ce qui est littérature scientifique, leader d'opinion, ouais, du monde scientifique. Et puis également, si vous êtes un investisseur particulier, les investisseurs qui sont sur le tour de table et vous voulez, nous ce qu'on fait, hein, chez Tudigo, lorsqu'on rentre sur une deep tech, sur une med tech également, on va regarder des entreprises qui ont déjà sur le tour de table des fonds d'investissement professionnels qui ont un portefeuille et un track record avéré sur ce sujet-là.
Voilà, donc on vérifie, vous l'avez entendu évidemment, la dimension de la rupture technologique, la taille du marché, vous faites vos petits devoirs pour identifier aussi le potentiel de croissance. Vous vérifiez ce qu'Alexandre nous a qualifié de TRL pour la mesure de la maturité technologique. Et puis, il y a cette dimension humaine que vous ne minimisez jamais, mais que là, vous avez l'air de particulièrement souligner comme un point important. On consulte, on se documente, on parle avec les gens qui sont proches, dans les tours de table ou dans les gens accessibles. Mais aussi, on va vérifier auprès, vous nous avez dit, de key opinion leaders, c'est-à-dire des chercheurs, des médecins, des scientifiques.
Voilà, parce que vous voulez plusieurs personnes qui attestent que vous avez vraiment une innovation qui est en capacité de répondre à ce problème-là, et puis qui fonctionne, dont les fondements scientifiques sont valables. Voilà. Bien, même si le TRL va vous donner cette réponse, parce que c'est vraiment la preuve que ça fonctionne. Mais dimension humaine, c'est important, évidemment, sur l'équipe. Ça, c'est particulier à la deep tech. En deep tech, vous voulez trois ingrédients. Des chercheurs, des ingénieurs également, et puis des compétences en gestion.
Un profil plus managérial.
Voilà, parce que vous allez souvent avoir les chercheurs, enfin vous allez systématiquement avoir les chercheurs, parce que c'est de là que ça vient. Il vous faut ensuite des ingénieurs pour en faire une application au monde réel. Et puis, il vous faut absolument, sur ces sujets-là, des cofondateurs, CEO, qui vont être capables d'aller lever les fonds nécessaires. On est sur des temps longs, mm-mm, on est sur des montants d'investissement qui peuvent être importants, et puis qui vont être capables de trouver des applications commerciales et de développer du chiffre d'affaires qui vient rembourser et puis récompenser le risque pris par les investisseurs.
Alexandre, pour conclure, qu'est-ce qui change dans un investissement en deep tech par rapport à un investissement, entre guillemets évidemment, classique ?
Quatre choses. Numéro 1, donc la durée d'investissement et les capitaux nécessaires. On l'a dit, hein, on est
plus long, ça plus long, plus cher.
3 à 5 ans sur du classique, 5 à 15 ans sur de la deep tech. Le risque qui va avec, donc on a un risque donc de liquidité avec ce temps long, on a également un risque qui porte sur la technologie, qui porte sur la capacité à trouver un débouché, vraiment un débouché commercial et à l'appliquer dans le monde réel. Après il y a un troisième, donc là c'est plutôt dans les bons points, c'est l'impact, c'est que si ça fonctionne, l'impact sociétal, environnemental, économique, il va être monstrueux. Vous avez les élus, les gagnants, si vous misez sur les bons chevaux, vous êtes sur quand même des entreprises entreprises qui vont potentiellement prendre l'intégralité du secteur. C'est pour ça que vous avez des valorisations délirantes dans le domaine de l'intelligence artificielle et que c'est la course aujourd'hui à qui fera le meilleur modèle d'IA générative, donc Mistral d'un côté, OpenAI de l'autre. Par exemple. Et puis, quatrième point, pareil dans les avantages, des dispositifs fiscaux et des aides, des subventions qui sont là pour aider, en particulier, notamment en France, l'investissement et le développement des deep tech. Pour investir dans une deep tech, aujourd'hui, vous avez la possibilité de bénéficier du dispositif JEIC ou JEIR, qui vous permet donc de défiscaliser 30 à 50% des capitaux investis dans une deep tech. Donc là, l'idée, c'est pas tant de venir aller chercher le levier fiscal, mais de venir réduire le risque de perte en capital de 30 à 50%.
Il y a un gros sujet dont il faudrait traiter dans une autre chronique avec vous et peut-être quelqu'un de la bourse, de la cote mid et small, sur est-ce qu'il vaut mieux aller financer, enfin, quand on est entrepreneur, se financer auprès du private equity ou auprès de la bourse quand on est dans le temps long. Et quand on voit les difficultés des medtech et des biotech sur la cote mid et small, est-ce que le private equity a vocation à supporter tout l'investissement disruptif et innovant et deep et tech français?
C'est ce que le private equity fait depuis 20 ans aujourd'hui. C'est le private equity qui soutient le développement des innovations, c'est ces capitaux privés qui aujourd'hui permettent de développer des entreprises avant qu'elles arrivent à un stade de maturité commerciale, financière, qui permet de les mettre, de les coter en bourse. On rappelle, les IPO en France notamment, on se parle de 300 millions l'année dernière. C'est rien du tout par rapport au capital investissement seul qui était en baisse mais qui fait quand même quasiment 6 milliards. Et globalement, le niveau des financements en private equity qui est bien plus important.
Merci beaucoup Alexandre Leng, cofondateur de Tudigo, avec nous sur comment investir dans la deep tech. Cette séquence est retrouvée en podcast et en replay dans quelques secondes sur le site BFM Business.